Orson Welles.
Je ne suis pas du tout un professionnel. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un mot plus triste que ça? Parce que amateur, c'est basé sur le mot amour. Il faut faire les choses pour love. Je suis mobile, comme tous les gitans.
Il était devenu un gitan, d'un genre tout de même un peu particulier, parce qu'Hollywood, après la splendeur des Amberson, l'avait répudié. Il coûtait trop cher et rapportait trop peu. Surtout avec la fin de la guerre, l'Amérique rooseveltienne, avec laquelle il avait fait corps, s'achevait, et le cap qu'allait prendre le pays n'était pas le sien. Il devenait has-been. Un has-been de 32 ans, un has-been de génie, qui devra, pendant près de 40 ans, jusqu'à sa mort en 85, se vendre un peu comme un article de masse, faire le bonimenteur sur les plateaux télé et l'acteur pour les films des autres. J'ai préféré accepter des rôles qui ne me plaisaient pas plutôt que de tourner des films qui ne m'auraient pas plu du tout. S'il faisait la vedette, c'était donc pour garder des ressources qui lui permettaient de rester un artiste et de filmer encore et toujours. Les industries culturelles se sont vengées de sa résilience en le portraiturant jusqu'à plus soif en irresponsable alcoolique, fumeur de Monte Cristo, incapable de finir ce qu'il commençait. Orson Welles mérite à l'évidence d'être considéré autrement, à la hauteur qui lui convient.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Youssef Ishakpour, bonjour.
Bonjour.
Qui a porté Orson Welles dans son cabas, peut-être des dizaines d'années, un peu comme lui, portait en lui Don Quichotte.
Avec cette différence que j'ai survécu pour pouvoir finir mon livre, en fait, j'y ai consacré 37 ans et demi pour diverses raisons. L'une des principales était que j'ai commencé ce livre à un moment donné où on parlait beaucoup de totalisation. Ça veut dire qu'il fallait prendre une œuvre par ses aspects très différents. Donc, c'est à la fois une sorte d'analyse au gros plan, c'est-à-dire qu'on suit plan par plan les films, et à la fois il y a en plan d'ensemble, c'est-à-dire des dimensions historiques, politiques, philosophiques,
et d'autres empruntées à l'histoire de l'art et à l'esthétique,
etc. Voilà.
C'est aux éditions de La Différence, ça s'appelle Une caméra visible. Puisque vous écrivez aussi beaucoup sur la peinture, on pourrait faire le rapprochement, c'est quasi une évidence, entre Orson Welles et Picasso. Jamais un film d'Orson Welles ne ressemble à un autre film d'Orson Welles, de même qu'une époque de Picasso ne ressemble jamais à une autre époque de Picasso.
Il y a cette différence d'un film à l'autre, mais il y a autre chose qui peut les rapprocher. En fait la place de Citizen Kane dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il occupe à peu près une place qui reviendrait, disons, au jeune Picasso ou au moment du cubisme Picasso-Braque. C'est-à-dire que c'est un renversement total de manière de faire du cinéma.
Avant de faire du cinéma, il était déjà célèbre. Citation de François Truffaut. Voilà le premier film réalisé par quelqu'un qui était déjà accompli dans d'autres arts et extrêmement connu.
Oui, alors Welles a commencé très tôt comme acteur à Dublin vers le 16-17 ans, et après aux États-Unis il a continué. En quelque sorte, il a été au théâtre un des premiers grands metteurs en scène de théâtre américain, en même temps étant un très grand acteur. Et il a monté des pièces de théâtre qui ont fait date dans le théâtre américain. En même temps, il était lié à la radio, à la fois à la radio en tant parce qu'il avait une très belle voix et parce qu'il avait la capacité d'imiter, donc il participait à beaucoup d'émissions. Et à un moment donné, on lui a donné la possibilité de faire un théâtre sur les ondes. Et c'est là où il a commencé à faire des adaptations, notamment La Guerre du Monde, qui l'a rendu célèbre.
Octobre 1938, voilà, l'arrivée des Martiens, voilà, la panique qui suit.
La panique, complètement. Et donc c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il a pu aller à Hollywood et faire des films.
Mais c'était un théâtre civique de l'époque du New Deal, un théâtre subventionné et qu'il subventionnait lui-même par les activités qu'il avait à la radio. Et vous racontez que il était capable de faire tant de choses à la fois, avant même de faire du cinéma, que pour aller d'un lieu de travail à un autre, il se déplaçait en ambulance.
Oui, parce que c'est une boulimie de travail chez Wells, et boulimie ou une capacité de création. D'ailleurs, il vivait sur la scène de théâtre en permanence. Il dormait très peu. Il dormait par intermittence, comme ça, des 2 ou 3, 4 heures par moment. Et il était à la fois au théâtre, il était à la fois à la radio, il se déplaçait à toute vitesse.
Mais 1941, tous ceux qui connaissent les arts ont fait cercle autour de lui en disant « Silence, le jeune prodige travaille, il est attendu au tournant pour la sortie de Citizen Kane ».
Rosebud.
I beg your pardon, sir?
What
did you say?
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it?
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
What do you want to know?
Well, Mr. Bernstein, we thought maybe if we could find out what he meant by his last words as he was dying.
That Rosebud, huh? Maybe some girl. There were a lot of them back in the early days.
C'est bizarre, lui dit Eric von Stroheim, qui est quand même quelqu'un d'averti. Moi, j'aurais pas commencé par la fin. J'aurais commencé par le début pour accompagner le spectateur vers la fin, afin d'obtenir en lui un effet de réel.
Ce n'est pas simplement sur Stroheim qui a eu cet effet. Stroheim dit en plus qu'il n'avait rien compris, et d'autres aussi. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec, disons, le cubisme, c'est-à-dire que c'est la manière de traiter une histoire qui a une signification et non pas l'histoire immédiatement telle qu'elle est racontée.
Vous compareriez avec les Demoiselles d'Avignon de Picasso ?
Non, je dirais plutôt plus proche du cubisme que les Demoiselles d'Avignon. C'est l'incompréhension, ça correspond à ce qui s'est passé avec les Demoiselles d'Avignon, mais beaucoup plus. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, il y avait toute la tradition, essentiellement à cause du cinéma parlant. C'est qu'on a intégré la parole à l'image, et les images qui, dans le cinéma muet, les images et le montage qui étaient essentiels sont devenus secondaires. Parce que le cinéma était la mise en scène de la parole uniquement. On parlait, on parlait, on parlait. Alors Wells, venant du théâtre et venant de la radio, il savait ce que ça veut dire la parole. Il est venu avec ses ingénieurs de son de la radio. Donc il a fait un retour à l'image à partir de la parole. Ce qui fait qu'il y a une mise en crise, une mise en question de l'image. C'est pour ça que Wells a fini par dire « mais notre dépendance à l'image est énorme ». Il y a une différence essentielle entre le cinéma d'action qui était le cinéma de Ford, John Ford. D'ailleurs, Wells a vu 35 fois ou même plus le Chevauchée fantastique pour faire Citizen Kane, pour ne pas faire comme Ford.
Oui, mais alors Hollywood lui dit, il ne faut pas voir plusieurs fois les films pour les comprendre. Il faut plutôt que vous répétiez 3 fois la même chose. La première fois pour le type qui est au premier rang, qui est intelligent. La deuxième fois pour le type qui est moyen, au milieu. Et la troisième fois pour le pauvre Joe qui est au fond, là, qui vient de l'Indiana.
Oui, mais simplement, le problème de Wells, c'est qu'il faut voir ces films 3 fois pour comprendre le film. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'activité de la part du spectateur, énormément d'activité.
Hollywood lui a donné des moyens incommensurables pour Citizen Kane et lui fournit encore de fort bonnes conditions pour la splendeur des Amberson. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup la biographie, que sur les 3000 pages que vous avez consacrées à Wells, vous commencez à parler de biographie qu'à la page 460 pour vous arrêter à la page 600. Il y a quand même quelque chose qui...
Je ne pense même pas que ça va jusqu'à la page 600. Hein.
Oui.
Je pense qu'il doit y avoir 25 pages sur
de
biographie.
Oui, oui. Il faut quand même que vous disiez que la splendeur des Amberson, ça rappelle quelque chose de l'enfance qui a été ou aurait été celle de Wells.
Oui, c'est-à-dire qu'on a dit la même chose à propos de Citizen Kane, dans la mesure où la mère de Wells est morte quand Wells avait 9 ans. Et donc, le petit Kane est enlevé à sa mère quand il avait 9 ans aussi. On a dit ça à propos de ça. Évidemment, il y a des éléments autobiographiques dans la mesure où il a été élevé dans une maison provinciale avec des tantes qui ressemblaient aux personnages de tente dans La Splendeur de Lamberson. Mais enfin, c'est beaucoup plus des films sur l'Amérique en général, pas seulement sur lui-même.
Et le décor de son enfance était moins splendide que le hall et l'escalier de la demeure des Lamberson. Toujours le même motif récurrent de l'homme à la veille de sa mort.
Ce malheur plongea le major Lamberson dans une profonde méditation sur sa propre vie. Il découvrit soudain que tout ce qui l'avait passionné ou préoccupé au cours de son existence, acquisition de terrains, construction d'immeubles, placements et spéculations, n'était que futilité et bagatelle, à côté de ce qui l'inquiétait maintenant. Le major se trouvait face à un problème nouveau auquel il n'était pas préparé. Entrer dans un monde obscur où la splendeur des Lamberson ne serait pas reconnue.
Père. Père.
Hein?
La maison était au nom d'Isabelle, n'est-ce pas?
Oui.
Peux-tu te souvenir quand tu lui as transmis l'acte notarié?
Non. Je suis désolé, je me rappelle pas. Il ne fait pas de doute que c'est dans le soleil. Au début, c'était le néant. Et puis le soleil fit son apparition. Le soleil. La terre est la fille du soleil. Et nous sommes les enfants de la terre. Donc, qui que nous soyons, nous sommes tous issus de la terre.
Avant même la sortie en salle, dès la preview devant un public sélectionné, la fortune de Wells est rompue. Et il va lui rester maintenant à considérer le soleil. C'est un moment de césure, là.
Oui, parce que avec, dans la mesure où Citizen Kane n'avait pas rapporté de l'argent. Donc, on lui avait retiré une partie des droits qu'il avait sur la finition de son film. Donc, le film était obligé de passer devant les spectateurs, dans le preview, et les spectateurs ont commencé à rigoler, à sortir, et c'est ça qui a mis fin en quelque sorte, à l'existence du film de Wells et à l'existence de Wells en tant que grand réalisateur ayant des possibilités à Hollywood.
En revenant à la comparaison avec la peinture, vous dites, il y a des artistes comme Pollock, Rauschenberg, des grands artistes américains qui, après la Deuxième Guerre mondiale, vont connaître une fortune extraordinaire. Mais oui, mais leurs pinceaux ne coûtent pas des millions de dollars comme ça. Les mouvements de caméra et les décors de Wells.
D'abord, il y a cette différence essentielle, c'est-à-dire qu'une peinture, d'abord, ne demande pas beaucoup d'argent pour être produite. Ensuite, les œuvres d'art ont une valeur spéculative. Aucun film n'a de valeur spéculative. N'a une valeur spéculative que s'il passe devant beaucoup de spectateurs. Une peinture peut être aimée par quelques personnes, mais un film, ça doit avoir un public très grand. Et dans la mesure où il n'y a pas ce public-là, le public commence à rigoler et le public commence à refuser. Donc, on coupe, on démolit le film de Wells. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça va rapporter de l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Mais c'est ce qui s'est passé très souvent avec le film de Wells. On les a démolis en croyant que ça plairait au public. Ça n'a toujours pas plu au public. Il y a un film de Wells qui a rapporté de l'argent. C'était Le criminel de Stranger. C'était un film qu'il avait accepté de tourner pour montrer qu'il était capable de faire un film comme tout le monde.
Le public de cinéma, ce n'est pas du tout la même chose que le public de théâtre.
Oui, parce que Wells lui-même, il l'a dit. Il a dit que quand il avait fait ses expériences au théâtre à New York, c'est qu'il y avait tous ces ouvriers juifs d'Europe centrale, d'Europe de l'Est qui étaient là, qui remplissaient toutes les places bon marché. Il a dit qu'il n'aurait jamais pu faire ça à Indiana. Alors, on fait un film, le film est fait pour Indiana, c'est pas fait pour un public comme il l'avait au théâtre. Donc, ce public d'Indiana n'est pas prêt à accepter le film de Wells.
Alors, on démembre, on remembre, les producteurs apportent leur correctif. Souvent, la musique, ce n'est pas non plus Wells qui l'a choisi. Enfin, ici, celle-ci est très réussie. Soif du mal, Henry Mancini.
La musique,
oui.
C'est important pour vous dans
les... Ah oui. Oui, c'est dans le silence. Il faut avoir le silence après. Ça, c'est important, cette musique.
Mmh.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Orson Welles, qui est un des héros du Festival de Cannes, qui projette deux documentaires qui lui sont consacrés, la Cinémathèque à Paris, à partir de la mi-juin, produira tout un cycle. Orson Welles, Youssef Ishakpour, a lui produit une somme sur Orson Welles, une caméra visible aux éditions de La Différence. Ce film, La Soif du Mal, c'est le seul qu'il va tourner aux États-Unis à la fin des années 1950. Après Macbeth, dernière production américaine, si tant est qu'elle soit totalement américaine, 1947. Vous expliquez, Youssef Ishakpour, que les États-Unis, d'après la guerre et d'après la mort de Roosevelt déjà, ne sont plus les États-Unis auxquels était associé Welles, qui était un homme politique par beaucoup d'aspects.
Oui, parce qu'il est, jusqu'à la fin de sa vie, il a eu toujours des positions très engagées, hein, Welles, tout en essayant de s'accommoder par ailleurs, parfois avec des gens qui n'étaient pas convenables. Mais enfin, disons que le théâtre de Welles, la radio de Welles, le cinéma de Welles est lié au moment non seulement à New Deal, à Roosevelt, mais il est lié aussi quelque chose de très particulier à l'intérieur du New Deal, qui était des Popular Front, qui était quelque chose comme l'équivalent de Front Populaire en France. C'est basé sur cette possibilité. D'ailleurs, un film comme Citizen Kane porte les idées de ce mouvement.
Et donc, ce mouvement qui comptait moins de communistes qu'en France, mais quand même, aux yeux de l'Amérique, d'après 1947, trop de communistes.
Trop de communistes. Il y avait trop de communistes et donc n'a pas pu continuer après. Il y a eu un changement et puis on est entré dans la guerre froide. Et Welles a quitté, d'ailleurs, il n'a pas quitté les États-Unis pour des raisons politiques immédiatement. C'est que, en fait, c'est tout l'argent qu'il avait et il l'avait investi pour monter un spectacle de théâtre absolument hallucinant qui était Le Voyage autour du monde en 80 jours. Enfin, il avait tout son argent était passé là-dedans et il devait beaucoup d'argent au fisc. Et c'est pour ça qu'il a quitté les États-Unis. Ça n'a pas empêché le FBI le poursuivre pendant tout le temps en Europe ou partout où il était.
Mais avant, en fait, c'était pas pour des raisons politiques. Avant que vous nous parliez de Welles en Europe, juste un moment, sur le seuil, avant le départ, c'est le tournage dans des conditions gigantesques, sur des plateaux immenses où deux scènes peuvent avoir lieu en même temps, Welles courant de l'une à l'autre, de Macbeth. Et il avait déjà demandé aux acteurs américains qui participaient à cette production d'avoir un accent européen, plus précisément un accent
écossais.
Écossais.
Écossais, parce que ça se passe en Écosse.
Our story is laid in Scotland. Ancient Scotland, savage, half lost in the mist that hangs between recorded history and the time of legends. The cross itself is newly arrived here. Plotting against Christian law and order are the agents of chaos, priests of hell and magic, sorcerers. Here the spell is laid upon him, and the story begins.
When shall we three meet again?
In thunder,
lightning,
or in rain.
When the hurly-burly's done.
When the battle's lost.
And won.
That will be ere the set of sun.
There to meet with Macbeth.
Les sorcières se demandent s'il y a un ciel, il y a tellement de brume, et si dans le ciel il peut y avoir des étoiles. Ce film, on ne va pas raconter, il faudrait 100 pages, la manière dont il a été monté post-synchronisé, mais il est déjà en Europe quand le film doit être achevé. Et là, Youssef Ishakpour, si vous nous parliez de Shakespeare, de l'importance de Shakespeare pour Orson Welles, vous nous le peindriez en Européen, en homme de la Renaissance.
Bon, il y a deux choses. D'abord, Wells a reçu, étant enfant, les œuvres complètes de Shakespeare. Il les connaissait. Il avait même reçu un théâtre de marionnettes où il montait des pièces de Shakespeare pour la famille, enfin à la maison, quand il était là. C'est-à-dire que c'est, dans quelque sorte, deuxième langue maternelle, Shakespeare. Et en tant qu'acteur, quelqu'un qui joue les rois, c'est vraiment un univers qui lui correspond. Donc il y a cet aspect-là. Et, bon, il n'est pas le fait qu'il a été touche à tout, capable de faire beaucoup de choses, de faire des inventions en divers domaines, on l'a comparé à un homme de la Renaissance. Disons que pour moi, il ressemble beaucoup plus à ce que les Américains appelaient les tycoons, c'est-à-dire ces grands hommes qui ont fait l'Amérique telle qu'on le connaît. Il a été de cette taille-là beaucoup plus que de taille, disons, mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est-à-dire c'est un homme par rapport aux Américains. Il y en a très peu, c'est-à-dire qu'il y a Melville avant lui, qui est aussi nourri de Shakespeare. Et il est vrai que par sa culture, on le dit toujours que c'est quelqu'un qui, en venant en Europe, il avait oublié sa langue maternelle, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas comme on s'attendait à ce qu'on parle aux États-Unis.
Il parlait comme Falstaff, et Falstaff, c'est un peu lui quand même, parce que Falstaff, c'est quelqu'un qui doit faire rire pour payer son dîner.
Mais Léon Falstaff, c'est surtout un roi à certains banque. Un roi sans saltimbanque. C'est le roi, c'est tel que. Parce qu'à partir de. C'est, à un moment, il a la position qu'il a par rapport au marché, il a Wells, c'est un genre de roi vagabond, enfin, quelqu'un qui n'a pas de place, qui n'a pas de royaume. Donc ça correspond à ça. Et d'un autre côté, Falstaff, il est quelqu'un qui est acteur essentiellement. Alors il y a ces deux aspects, il y a le roi de saltimbanque qui est acteur, qui touche le cœur de Wells, mais bien sûr il y a la prestation, il y a l'importance qu'il a donnée au personnage de Falstaff, qu'en général on traite de manière très ridicule, mais il lui a donné une grandeur rare. Donc c'est par rapport à lui-même, mais il y a le film, c'est que vous avez là des moments différents, notamment il y a une guerre, une bataille dans Falstaff, qui est avec la bataille de Alexandre Nevsky, les deux batailles les plus grandes de l'histoire du cinéma. En 8 minutes, il y a et d'ailleurs d'une sauvagerie et d'une brutalité de guerre, à la fois Moyen-Âge et à la fois les guerres actuelles, qui est absolument extraordinaire. Le rapport de Wells à Shakespeare, c'est que il a essayé en tout de faire d'adapter 5 pièces de Shakespeare. Il y a Le Roi Lear et Le Marchand de Venise qui n'ont pas marché, mais les 3 autres, et d'ailleurs les 5, c'était toujours dans des rapports particuliers, une invention de rapport particulier en théâtre et cinéma. Et donc il y a le côté magique du théâtre dans Macbeth, il y a le côté, disons, Eisensteinien, mais même plus fort qu'Eisenstein dans Othello, avec l'utilisation de tous les moyens cinématographiques pour faire une sorte d'opéra cinématographique. Voilà.
C'est Le Roi Lear qui peut-être l'a amené en France en 1982. Il espérait pouvoir y réaliser son projet. Il avait été reçu dans un grand concours de peuple, dans un grand arroi par Jacques Lang, qui lui remettait la Légion d'honneur. Et ensuite, à la Cinémathèque, voici ses déclarations. C'est un documentaire de Guy Seligman.
The décadence of the cinema comes from the glorification of the director as being not the servant of the actors, but his master.
La décadence du cinéma, car il y a une certaine décadence dans le cinéma, vient de la glorification du metteur en scène qui n'est plus le serviteur de l'acteur, mais son maître.
Because the job of a director is to discover in the actor something more than he knew he had.
Car le travail d'un metteur en scène est de découvrir chez l'acteur quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait en lui.
The job of the director is to choose what he sees.
Le travail d'un metteur en scène est de choisir dans ce qu'il voit.
And to an extent, to create.
Et dans une certaine mesure, de créer.
But a great deal of what is applauded as creation.
Mais une grande partie de ce qui est applaudi et loué en tant que création,
simply there.
C'était là.
And you're intelligent enough to shoot it.
Et vous avez été assez intelligent pour le tourner.
So that the director should be very intelligent. Preferably not intellectual.
Donc un réalisateur devrait être Surtout, de préférence intelligent, de préférence pas intellectuel.
Because the intellectual is the enemy of all the performing arts.
Car l'intellectuel est l'ennemi de tout art de représentation.
Donc la mise en scène, c'est arroser le comédien. J'emploie l'expression parce que Marlène Dietrich disait que quand elle était dirigée par Orson Welles, elle avait l'impression d'être arrosée. Oui, mais après, il y a le montage.
Oui. Mais
le
même avant ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours prendre ce que dit Welles pour la vérité. C'est que ce qu'on vient d'entendre est vrai pour le moment où il l'a dit. Parce qu'un film comme Citizen Kane, c'est justement un film cool. On a considéré comme un film intellectuel. C'est un film qui a lancé l'image de réalisateur génie. C'est le film qui a produit l'idée chez beaucoup de cinéastes d'être auteur. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte là.
Il a provoqué beaucoup de vocations de metteur en scène.
Voilà.
Mais la mise en scène à la table de montage.
Oui, c'est-à-dire que bon, mais là, peut-être qu'au moment où il a dit cette phrase qu'on vient d'entendre, il n'aurait pas accepté. Voilà. Au moment, je veux dire, même pas 82, c'est-à-dire peut-être une demi-heure après, il aurait dit autre chose. Il y a ce côté falstaffien chez Welles. Welles, c'est quelqu'un qui finissait ses films, malgré toute l'histoire qu'on a racontée sur lui. Dans la salle de montage. Le montage était pour lui la machine à explorer le temps, à créer le rythme du film, à donner une forme au film. Et il donnait énormément d'importance au montage. Alors, le problème avec Welles, c'est qu'en général, quand on prévoit, il y a un planning pour finir un film, il y a tant de semaines de prévu pour le montage. Lui, il en avait besoin toujours de double. Et ce qui fait qu'on le mettait dehors, on s'appropriait du film, on le remontait, on le cassait, on le refaisait comme on voulait, et après on disait qu'il n'était pas capable de finir ses films.
On remonte les films de Welles, je vais parler comme vous, aujourd'hui, très souvent. On en annonce toujours un chaque année, un l'année prochaine.
Non, c'est qu'il y a les films non terminés, il y a quelques projets qui étaient en cours, par exemple, Don Quichotte, bon, il n'a pas terminé totalement là, ni le tournage, ni le montage. Il y a The Other Side of the Wind qui n'est pas terminé, etc.
C'est lui qu'on annonce en 16.
Mais ce qui est plus grave encore, c'est les restaurations. On restaure les films, on les déforme.
Merci à vous, Youssef Ishakpour. Une caméra visible, Orson Welles, aux éditions de La Différence. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, avec à la technique Mathias Alléon, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco pour la préparation.